autour de la question.
Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
En quoi ça nous touche?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver avec Pierre Chaffanjon à la réalisation pour nous interroger sur l'infini aujourd'hui. L'infini, c'est long, surtout vers la fin, disait Pierre Dac. Mais comment le penser? Est-il possible de le cerner? Pourquoi ce questionnement sur l'infini a toujours occupé, tourmenté les philosophes, les mathématiciens et les physiciens? Comment l'éclairer aujourd'hui à la lumière des plus récentes découvertes en cosmologie, en mathématiques et en physique fondamentale? Comment repenser l'infiniment grand de l'univers, l'infiniment petit de la matière, l'infini du nombre? Voilà ce que nous allons nous demander avec nos invités, les astrophysiciens Jean-Pierre Luminet et Marc Lachaiseret, qui viennent de publier aux éditions d'Uno « De l'infini, horizon cosmique, multivers et vide quantique », sacré programme. Autour de la question « Comment repenser l'infini ?» Bienvenue. Bonjour Marc Lachaiseret.
Bonjour.
Bonjour Jean-Pierre Luminet.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous pour partager tous ces infinis. Jean-Pierre Luminet, vous êtes en liaison par Skype avec nous depuis Marseille, où vous êtes directeur de recherche au laboratoire d'astrophysique de Marseille, astrophysicien, écrivain, auteur de nombreux ouvrages traduits dans le monde entier, internationalement reconnu pour vos travaux sur les trous noirs et la cosmologie. Pourquoi Jean-Pierre Luminet aujourd'hui tenter de repenser l'infini, ou peut-être devrais-je dire les infinis, c'est ça ?
Oui, parce que le sujet est par construction même, d'une part, il est inépuisable, et puis d'autre part, parce qu'on ne peut pas effectivement penser ce sujet au singulier, il est nécessairement pluriel. D'ailleurs, vous-même, dans votre introduction, avez mentionné déjà les termes de philosophie, de mathématiques et de physique. Et effectivement, on trouve des conceptions et des problèmes fondamentaux de l'infini qui ne sont pas les mêmes dans ces différentes disciplines de l'esprit humain. Déjà, en physique, le public comprendra très bien qu'il faut distinguer très généralement l'infiniment grand et ce qu'on appelle l'infiniment petit, qui pose des problèmes d'ordre tout à fait différents. Et d'ailleurs, dès l'origine en fait, de la pensée sur l'infini, qui remonte finalement à la Grèce antique, il y avait déjà cette distinction qui était faite. Puisque, par exemple, on avait le grand savant Archimède, il avait établi un système de numération qui permettrait d'atteindre des nombres extraordinairement grands. Alors, pas tout à fait infinis, mais des nombres tellement grands qu'à cette époque-là, c'était plus ou moins assimilé à l'infini. Et de notre côté, Zénon, avec ses fameux paradoxes sur lesquels on sera amené à revenir, avait discuté du problème de la divisibilité, en fait, dans l'infiniment petit, du mouvement, donc de l'espace, donc du temps, et finalement de la matière, et poser donc des problèmes fondamentaux sur la divisibilité des infiniment petits, des problèmes qui ne seront que partiellement résolus que beaucoup plus tard.
Infinie question, on va le voir au cours de cette émission, ne sont toujours pas résolu. Marc Lachaiseret, vous êtes astrophysicien, théoricien et cosmologue, directeur de recherche au laboratoire Astroparticules et Cosmologie du CNRS à l'Université Paris-Diderot, auteur de nombreux ouvrages et de nombreux travaux de renommée internationale en physique fondamentale, en cosmologie et sur la gravitation. Pour vous aussi, aujourd'hui, l'infini doit être repensé au pluriel, comme on pourrait dire, dans toutes ses dimensions.
Oui, l'infini, alors il est partout. Il est partout en physique, même où on ne s'y attend pas. Il est partout en mathématiques également, même là où on ne s'y attend pas. Et donc, on ne peut pas travailler dans ces disciplines sans y être confronté. Et ça a été vrai tout au long de l'histoire des sciences. Et on peut retracer un aspect de l'histoire des sciences, justement, en se focalisant sur l'infini, en voyant comment on a eu beaucoup de mal à s'en accommoder au début, à cause des paradoxes que cela pose ou que cela semblait poser. Et puis, comment petit à petit, cet infini a été maîtrisé, dompté. On a réussi à s'en accommoder, on a réussi à travailler avec lui. Et alors, pas totalement, c'est-à-dire qu'il y a encore quelques domaines de la physique et un peu des mathématiques où il y a des questions relatives à l'infini qui sont non résolues. Mais dans beaucoup de cas, et on en parlera certainement tout à l'heure, dans beaucoup de cas, on est arrivé à maîtriser. En mathématiques, par exemple, grâce aux travaux du début du XXe siècle, notamment Cantor, mais en physique aussi, où on s'aperçoit que certains infinis ne posent pas finalement de problème et au contraire nous aident à trouver la solution, nous aident à réfléchir d'une manière un peu plus convenable. C'est-à-dire qu'on a besoin de l'infini et on ne doit pas toujours s'en débarrasser.
Alors comment et pourquoi avons-nous besoin de l'infini autour de la question comment le repenser, comment repenser tous les infinis? Je vous propose de commencer cette aventure qui n'a pas vraiment de fin par quelques pistes de réflexion sonore avec le mix fini et infini de Pierre Chaffanjean.
Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de l'infini. Bah ouais, rien que ça là.
On ne sait toujours pas dire avec exactitude si l'univers est fini ou infini. Mais si l'univers est infini, comment peut-il être en expansion? L'infini peut-il s'agrandir?
Multiplie ça par l'infini, ajoute la profondeur de l'éternité, tu auras beaucoup de mal à percevoir ce dont je te parle.
L'univers est-il infini ou fini? S'il est fini, ça ne veut pas dire qu'il y a un bord, ça ne veut pas dire qu'il y a une limite, ça ne veut pas dire qu'il y a un endroit où ce serait écrit « fin de l'univers ».
C'est l'infini. Et dans cet infini, je me suis perdu et je me suis perdu complètement.
Mais est-ce que il n'y a que l'espace qui peut être infini?
Peut-on compter à l'infini jusqu'à des milliards de milliards de milliards de milliards? On peut penser qu'il est intellectuellement logique que l'infini mathématique soit possible.
Quand on imagine qu'on va diviser à l'infini, on a la notion de longueur, dans de distance dans la tête, donc on imagine qu'on va pouvoir diviser en petits morceaux. Si on veut faire ça du côté de l'infiniment petit, plus vous voulez couper finement la matière, en quelque sorte, plus vous montez en énergie.
Est-ce que ça a un sens de parler d'infiniment petit?
Ce spectacle de l'infiniment petit oblige à presque démentir toutes les lois physiques qui nous viennent de l'observation de la vie quotidienne à notre échelle.
L'infini et l'éternité sont-ils respectivement une absence d'espace et de temps, ou bien un espace et un temps sans fin?
Infinité de questions qui surgissent hein, autour de l'infini, Marc Lachaiseraie. Ce serait quoi d'abord l'infini? Pas une vue de l'esprit, mais une idée. Enfin, dès qu'on pense, dites-vous dans ce livre, hein, tous les deux avec Jean-Pierre Luminet, dès qu'on pense,
l'infini surgit. Je crois que c'est une phrase qu'on a mis plus ou moins en exergue. Effectivement, l'infini, c'est quelque chose d'assez naturel dans une certaine mesure, puisque si je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, je me rends bien compte que rien ne va m'arrêter. Et donc ça, c'est l'infini qu'on peut qualifier de potentiel. C'est-à-dire, rien ne va m'arrêter. Lorsque je compte, je peux compter indéfiniment. Mais ça ne veut pas dire que je peux maîtriser le nombre de ces nombres que je compte. Et ça serait ce qu'on appelle l'infini actuel. Et donc, Aristote déjà avait fait la distinction. Aristote a beaucoup écrit sur l'infini. Et ça veut dire que j'ai la capacité d'aller jusqu'à l'infini sans que rien m'arrête, mais ce n'est pas pour ça que je peux travailler avec le nombre des étapes que je peux accomplir. Et si j'arrivais à définir ce nombre, c'est-à-dire si j'arrivais à dire combien existe-t-il de nombres, la réponse serait certainement l'infini, et ça serait un infini actuel. Mais cet infini actuel, on a eu, durant l'histoire des mathématiques et de la physique, on a eu beaucoup de mal à le maîtriser. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une grande partie de l'histoire des mathématiques, c'est justement d'avoir appris à maîtriser cet infini, à maîtriser l'infini actuel.
Alors comment maîtriser l'infini? Le premier infini qui vient à l'esprit, c'est aussi le premier de vos chapitres, c'est l'infini du ciel, l'infini de l'univers, Jean-Pierre Luminet.
Oui, l'infini de l'univers. Alors l'univers, c'est de l'espace et du temps. Donc en général, on pense d'abord à l'infinité de l'espace ou la finitude de l'espace. Et puis il y a également, et surtout dans les théories plus modernes de la cosmologie, issues de la relativité générale, qui couple l'espace et le temps de façon indissociable, l'infini se pose également pour la question du temps, est-ce que l'univers est éternel ou pas? C'est aussi évidemment une très ancienne question de la cosmologie. Alors c'est très important que Marc ait rappelé qu'effectivement il y avait une distinction fondamentale déjà posée par Aristote entre l'infini potentiel et l'infini actuel, qui a engendré finalement deux écoles de pensée qui se sont affrontées, enfin disons peut-être pas des écoles de pensée, mais des perceptions en fait majeures qui se sont affrontées tout au long de l'histoire, aussi bien en mathématiques qu'en physique, voire dans d'autres domaines de la pensée, en ce sens que pour certains, c'était le cas notamment pour Aristote, comme l'a dit Marc, l'infini dit potentiel est potentiel parce que je n'ai qu'une création de l'esprit humain, sans aucune réalité. Alors évidemment, il peut être nécessaire parfois pour résoudre certains problèmes de physique ou certains problèmes de mathématiques. En revanche, pour d'autres, ben, il est bel et bien un infini actuel et qui existe réellement dans la nature. Et déjà, par exemple, dans en ancien modèle cosmologique de l'Antiquité, remontant à Démocrite et aux philosophes atomistes plus généralement, eh bien, ils considéraient qu'il y avait vraiment, ils mettaient de l'infini actuel dans leur physique et dans leur cosmologie, puisqu'ils avaient un système général du monde qui est constitué d'un espace infini au sein d'un temps infini, et cet espace était lui-même peuplé d'un nombre infini de sortes de particules élémentaires, enfin, qu'on appelait justement les atomes, sans oublier que tout cela baignait également dans une sorte de vide infini. Et donc finalement, on voit ces deux conceptions qui se sont affrontées tout au long de l'histoire, et aujourd'hui encore, on peut dire que d'une certaine façon, avec les progrès énormes qui ont été faits dans le domaine des mathématiques, notamment avec les travaux de Bolzano, puis de Cantor, de Gödel, etc., beaucoup de mathématiciens, même s'il y a encore quelques discussions là-dessus, considèrent finalement qu'il y a bel et bien un infini actuel en mathématiques.
Un infini réel, un infini actuel et pas que un infini potentiel. Autour de la question comment penser l'infini, je vous arrête pour qu'on puisse méditer un peu ces questions, les méditer en musique cette fois-ci, parce que là, il n'y a pas de limite infinie, avec John Coltrane sur RFI Living Space. John Coltrane, Sans Limite, sur RFI Living Space, autour de la question comment repenser l'infini, ou plutôt les infinis, avec nos invités, les astrophysiciens Jean-Pierre Luminet et Marc Lachiezeray. Et tout de suite, un nouvel éclairage, c'est celui d'une jeune chercheuse qui travaille sur les grandes structures de l'univers. Alice Pisani est post-doctorante en cosmologie au Centre de physique des particules de Marseille, lauréate de la bourse de la Fondation L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science. Elle s'interroge sur l'infini des horizons cosmiques au micro de Charlie Dupuis.
Quand on regarde l'univers à très très grande échelle, on voit que les galaxies vont se distribuer en suivant un dessin très très beau qui s'appelle la toile cosmique. On aura donc des amas de galaxies, c'est des groupes de galaxies, ensuite on aura des filaments, et après on aura des endroits où il n'y a presque pas de galaxies, et ça s'appelle les vides cosmiques. Donc il faut comprendre que ce n'est pas des endroits complètement vides, mais presque vides. Donc ça, c'est vraiment mon sujet de recherche. Donc ce que nous allons faire, typiquement dans mon travail, c'est qu'on va prendre des grandes cartes de galaxies. Donc on aura la position des galaxies. Et parmi ces galaxies, on va chercher les endroits sous-denses, donc ces vides, avec des algorithmes. Donc c'est vraiment dans ces endroits où on n'a pas regardé avant que l'on peut espérer d'avoir des informations sur l'expansion de l'univers. Donc pour moi, quand vous parlez de vide et vous parlez d'infini, c'est vraiment des notions qui sont étroitement liées, dans la mesure où le vide, pour moi, est un nouvel outil merveilleux qu'on n'en avait pas avant, pour comprendre l'infini.
Vous, c'est une notion qui vous intéresse en tant que telle, l'infini ?
Moi, ce qui me passionne le plus, c'est l'infiniment grand. Une galaxie qui a des centaines de milliards d'étoiles, en fait, pour moi, c'est un point. L'infini, pour moi, c'est une notion assez concrète. Comme c'est dur d'imaginer, j'y arrive toujours progressivement. Donc je pense au Soleil, je pense que l'on a dans notre galaxie des centaines de milliards d'étoiles comme le Soleil, et ça me donne une échelle. Ensuite, je pense que des galaxies comme ça, dans l'univers, il y a des centaines de milliards de galaxies comme ça. Et vous voyez, on va de plus en plus grand. Et ça me parle d'infini dans ma tête.
Et je trouve passionnant que nous, sur notre petite Terre, on arrive à regarder aussi loin. Mais il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire.
Beaucoup de recherches à faire et en cours sur l'infini de l'univers. On a l'impression quand même que plus on voit loin et plus quoi ? Plus il y a des infinis qui surgissent.
Oh, on est quand même loin de l'infini parce que même des centaines de milliards, c'est rien vis-à-vis de l'infini. Et vis-à-vis de l'infini, tout nombre que l'on peut citer, que l'on peut mentionner, que l'on peut écrire,
ne suffira
pas. Bien,
il
est fini et il est presque infiniment petit par rapport à l'infini.
Mais on est toujours dans les paradoxes, en fait, quand on parle de l'infini, parce que l'univers est en expansion, mais ça veut dire quoi? Que l'infini peut s'agrandir?
Alors, encore, il faut bien comprendre que quand vous avez un objet, ça peut être l'univers ou n'importe quoi, il peut être infini d'un certain point de vue et fini d'un autre. Alors, tout simplement, si vous prenez un segment de droite, c'est fait d'une infinité de points. Donc, en tant qu'ensemble, c'est un ensemble qui contient un nombre infini de points. Et pourtant, il a une longueur parfaitement fini. Et en astrophysique, en cosmologie, en physique, en relativité, on rencontre des horizons qui viennent d'être mentionnés. Et un horizon, c'est pareil, c'est quelque chose que vous pourriez appeler paradoxal, bien que je n'aime pas ce mot, parce que quand on dit paradoxal, on a l'impression que ça heurte la logique. Tout ça est parfaitement logique, mais ça heurte l'intuition. Alors l'horizon, justement, par exemple, si vous considérez ce qu'on appelle l'horizon d'un trou noir, qui est un emplacement autour du trou noir, et que vous êtes quelque part à une distance finie de cet horizon, eh bien, si vous avez n'importe quoi qui vient de cet horizon, par exemple de la lumière, elle met un temps infini pour nous parvenir. Donc, à la fois, vous êtes à une distance parfaitement finie de l'horizon, et à la fois, il faut un temps infini pour que quoi que ce soit vous parvienne de cet horizon. Ça veut dire qu'elle n'arrivera jamais, cette lumière. Bon, donc, vous voyez qu'il faut se méfier de la notion d'infini. Enfin, il faut s'en méfier. Il faut arriver, si vous voulez, à bien comprendre de quoi l'on parle. Bon, c'est vrai de n'importe quoi, il faut toujours essayer de comprendre de quoi l'on parle, mais particulièrement à propos de l'infini. Et dans ce cas-là, on s'aperçoit que si on essaye d'être rigoureux, si on essaye de bien définir les choses, je ne vais pas dire les paradoxes disparaissent, mais en tout cas, il n'y a pas de conflit avec la logique. Il y a toujours des conflits avec notre intuition, et même le grand Cantor qui a débroussailler la question des infinis mathématiques, des grands infinis mathématiques, lui-même était complètement surpris, ébahi par ses résultats. À un moment donné, il a dit je le sais, je le comprends, mais je ne peux pas le voir. Et ça heurtait tellement son intuition. Il a dit ça à propos du fait que... Alors, ce qu'a fait Cantor, c'est qu'il a appris à mesurer, disons, le nombre infini d'éléments qu'il peut y avoir dans un ensemble. Par exemple, dans l'ensemble des nombres, il y a un infini, et Cantor est arrivé à le caractériser, à l'appeler, etc.
On peut mesurer l'infini, Jean-Pierre Luminet, sur cette question du qui n'est pas un paradoxe, mais qui est que l'univers est à la fois quoi, fini et infini, on peut le dire comme ça.
Alors attendez, il faut justement faire la distinction sur cette mesure possible de l'infini entre la physique, c'est-à-dire la cosmologie, et les mathématiques. En mathématiques, comme l'a dit Marc, on peut non seulement définir parfaitement les infinis, mais les traiter comme des nombres. Il y a des hiérarchies d'infinis, il y a des infinis qui sont plus grands que d'autres, on peut les additionner, on peut les multiplier. Il y a une véritable mathématique complète des infinis qui font que, comme je l'ai dit au début, très brièvement, on peut considérer que l'infini en mathématiques est bien actuel, il existe bel et bien. En revanche, en cosmologie, et là je reviens sur les passionnantes questions évoquées donc, par la jeune chercheuse de Marseille, quand on travaille sur les grandes structures, effectivement, on a beau parler de centaines de milliards de galaxies, donc des milliards de milliards de milliards de planètes, d'étoiles, etc., etc., on reste extraordinairement loin de l'infini et on restera à jamais en cosmologie, loin de l'infini, tout simplement parce qu'il y a ces fameux horizons qui limitent notre vue. Et donc même, on ne saura jamais si l'espace est infini ou pas. Alors certes, on peut développer des modèles mathématiques, et nous l'avons beaucoup fait, notamment...
Mais on ne le saura jamais, mais on va continuer d'y réfléchir et de s'interroger sur l'infini, Jean-Pierre Luminet, dans 3 minutes, autour de la question comment repenser tous ces infinis. Vous restez bien sûr avec nous, Jean-Pierre Luminet et Marc Lachiezeraie. On se retrouve juste après le flash d'info pour tenter d'aller aussi loin que possible dans l'infiniment grand comme dans l'infiniment petit. À tout de suite.
De la question.
Caroline Lachowski.
Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour cette deuxième partie vertigineuse autour de la question comment repenser l'infini, ou plutôt les infinis, à la lumière des plus récentes recherches en cosmologie, en mathématiques et en physique fondamentale. Nous sommes en compagnie des astrophysiciens Jean-Pierre Luminet et Marc Lachaiseret, auteurs aux éditions d'Uno de l'infini, horizon cosmique, multivers et vide quantique, jusqu'où nous entraînera l'infini.
Quand on parle infini, on pense toujours à l'immensément grand, lointain. Est-ce qu'il existe un infini de l'infiniment petit ?
Qui veut répondre à cette question de François Pommès, réalisateur du documentaire scientifique « L'infiniment petit de la matière », Marc Lachaiseret.
Oui, bien sûr. De toute manière, l'infiniment petit, l'infiniment grand sont liés. On sait très bien que quand on écrit 1 sur l'infini, quand on essaye de diviser par l'infini, on va trouver quelque chose qui est zéro ou qui est très petit. Bon, lorsque on fait de la physique, eh bien, on s'intéresse, si vous voulez, à la divisibilité. Par exemple, est-ce qu'on peut diviser la matière à l'infini ? Et ça, la réponse, on sait qu'elle est négative depuis que l'hypothèse atomique a été confirmée, c'est-à-dire depuis que l'on sait que la matière se compose d'entités microscopiques, ce qu'on appelle les particules élémentaires, les protons, les neutrons, les électrons, etc. Et que donc, si vous essayez de diviser la matière, vous allez arriver à faire des morceaux, puis ces morceaux, les diviser en molécules, peut-être les molécules en atomes, peut-être même dissocier l'atome en particules élémentaires, mais on ne peut pas aller plus loin. On commence à diviser les particules élémentaires dans les accélérateurs de particules, mais en d'autres particules élémentaires. Donc on pense que la matière,
à un moment, ça s'arrête.
Matière effectivement n'est pas divisible à l'infini. Et tout ça est régi aujourd'hui par cette branche de la physique qu'on appelle la physique quantique. Mais on peut se poser la même question à propos de l'espace lui-même et du temps d'ailleurs. Est-ce que l'espace est divisible à l'infini ? C'est-à-dire que si j'imagine une longueur, je la divise par deux, elle sera plus petite, je la divise encore par deux, etc. Est-ce que je vais pouvoir imaginer que je divise ma longueur à l'infini dans une sorte de mouvement qui ne s'arrêtera jamais ? Eh bien, si on décrit la description que nous avons aujourd'hui de l'espace, elle répond oui. C'est-à-dire, on peut diviser jusqu'à l'infini avec une limite qui est le point que l'on n'atteindra jamais. Mais nous avons des raisons de penser, à cause des rapports entre la gravitation, la physique quantique, aujourd'hui c'est un peu compliqué, nous avons des raisons de penser que peut-être on ne peut pas diviser l'espace à l'infini. C'est-à-dire que si l'on essayait, à partir d'une longueur de diviser par deux, eh bien il y a un moment où on arriverait à une sorte de longueur minimale, ce qu'on appelle la longueur de Planck en référence à Max Planck, qui a été un des initiateurs de la physique quantique, une longueur extrêmement petite, c'est un milliardième de milliardième de milliardième de milliardième de mètre.
Mais c'est quand même une fin.
Mais fini. Oui. C'est-à-dire, c'est pas parce que c'est petit que c'est zéro. Et de la même manière que c'est pas parce que c'est grand, on a parlé de milliards de galaxies, on sait aujourd'hui que si l'univers est fini, il contient des milliards de milliards de galaxies. Mais c'est pas du tout pour ça qu'il est infini. Et ben, c'est la même chose. Si on a une longueur aussi petite soit-elle qui constitue une limite, ça veut dire que l'infiniment petit n'est pas accessible. On ne peut pas aller jusqu'à zéro, on ne peut pas diviser indéfiniment.
Jean-Pierre Lumier, ça rejoint ce que vous disiez par rapport à l'infiniment grand de l'espace. C'est-à-dire, est-ce que l'infini, ce n'est pas une manière de dire on ne peut pas aller jusqu'au bout ?
Oui, alors ça rejoint effectivement l'idée à la fois des horizons pour l'infiniment grand, mais c'est vrai que donc dans l'infiniment petit, il y a effectivement cette limite sur laquelle on lutte. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce qu'on va appeler le modèle standard de la physique des particules, qui est office, comme son nom l'indique, d'un modèle qui est efficace sur le plan calculatoire pour calculer les propriétés des particules élémentaires, etc., leurs interactions. Comme a dit Marc, on sait bien que les particules ne sont pas divisibles à l'infini, mais malgré tout, dans une branche fondamentale qui s'appelle la théorie quantique des champs, pour des commodités de calcul, on a commencé par supposer en fait que les particules étaient ponctuelles. Et puis on s'est aperçu qu'en faisant ces calculs, en considérant que les particules sont ponctuelles, un point c'est infiniment petit. Eh bien, on arrivait à des calculs absurdes qui conduisaient à des infinis, qui n'étaient pas maîtrisables. Et donc, on a inventé une procédure assez compliquée, dont on parle un petit peu dans le livre, qui s'appelle la renormalisation, qui est une sorte de tour de passe-passe mathématique, où en fait, on soustrait à l'infini calculé d'autres infinis pour obtenir un nombre fini, et tout rentre dans l'ordre. Alors, ça paraît un petit peu étrange, tout simplement parce qu'on n'a pas encore aujourd'hui de théorie absolument cohérente, même s'il y a beaucoup de pistes qui sont recherchées, d'une véritable théorie de la gravitation quantique. Et comme l'a bien dit Marc, la matière, l'espace et le temps, aujourd'hui, dans nos conceptions modernes, sont absolument liées. Donc la divisibilité de la matière est liée à la divisibilité de l'espace et aussi éventuellement à la divisibilité du temps. Et donc dans certaines théories de la gravitation quantique, il y a ce dilemme entre continu et discontinu. Jusqu'à présent, jusqu'à ces 20 dernières années, disons, on avait tendance à penser que l'espace de fond dans lequel se déroulent les phénomènes était d'une certaine façon continue. Et aujourd'hui, dans certaines autres approches, notamment celle qu'on appelle la gravité quantique à boucle, excusez pour le terme qui paraît compliqué, on considère en fait peut-être que la texture ultime de l'espace, si on avait un énorme microscope pour voir à quoi ça ressemblerait, eh bien ce serait en fait discontinu, discret, comme une sorte de réseau discontinu. Il y aurait des atomes d'espace éventuellement et des atomes de temps. Et donc on aurait en fait une structure granulaire de l'espace et du temps.
Des grains, ce serait en grains, en forme de grains, c'est ça l'infini, l'infiniment petit serait sous la forme de grains.
Mais voilà, on ferait. Et alors, d'une certaine façon, ça fait disparaître beaucoup de problèmes liés aux infinis, mais pour l'instant, on n'arrive pas à bâtir de théorie réellement cohérente qui permet d'effectuer tous les calculs et d'éliminer tous les infinis que l'on souhaiterait. Et d'ailleurs, c'est l'une des choses finalement les plus intéressantes dans toute cette affaire, c'est qu'à chaque fois qu'on élabore, le physicien, lui en général, il cherche à éliminer l'infini de ses théories. Tout simplement parce que l'infini, il est impuissant devant l'infini, il ne peut pas le calculer, il ne peut pas le maîtriser. Contrairement au mathématicien qui, lui, peut effectivement le calculer et le maîtriser. Donc le physicien essaie toujours d'améliorer ses modèles et ses théories pour éliminer les infinis. Et nous écrivons à un moment dans le livre que l'infini est une sorte de phénix parce qu'il renaît toujours de ses cendres sous des formes nouvelles. C'est-à-dire à chaque fois qu'on élabore une nouvelle théorie plus performante que la précédente, qui élimine certains des infinis de la théorie, eh bien d'autres infinis inattendus surgissent. Et
donc, l'infini ou comment s'en débarrasser en quelque sorte pour les physiciens, ce qui n'est pas, vous l'avez dit, le cas pour les mathématiciens, puisque les mathématiques, c'est un petit peu la science de l'infini. Vous consacrez d'ailleurs dans ce livre un grand chapitre à l'infini du nombre. Pour concevoir un peu ce concept mathématique de l'infini, je propose une petite histoire qui nous est racontée par le mathématicien Ivar Ekeland. C'est celle de l'hôtel infini qu'il a notamment développé dans son ouvrage « Le chat au pays des nombres ».
Alors, au pays des nombres, tous les nombres vivent ensemble dans un grand hôtel qui s'appelle l'hôtel infini. Et l'hôtel infini est infini, comme son nom l'indique, et donc il y a une infinité de chambres, mais il y a une infinité de nombres, donc tout va très bien. Le nombre 1 est dans la chambre numéro 1, le nombre 2 est dans la deuxième chambre, le nombre 3 est dans la troisième chambre, et le nombre 1 580 000 est dans la chambre 1 580 000, donc l'hôtel est plein. Il est plein au sens que toutes les chambres sont occupées. Mais un jour, quelqu'un frappe à la porte, c'est zéro. Et zéro dit « je suis un nombre, j'ai besoin d'une place, moi aussi ». Alors il y a d'abord une grande discussion pour savoir si zéro est un nombre, on décide que c'est un nombre, et ensuite maintenant, il faut le loger. Comment va-t-on loger une personne de plus, à savoir zéro, dans un hôtel qui est plein ? Bien ici, ce n'est pas possible. Mais dans l'hôtel infini, c'est possible, parce qu'on demande au 1 de se mettre dans la chambre 2, au 2 de se mettre dans la chambre 3, au 3 de se mettre dans la chambre 4, à 1 580 000 de se mettre dans la chambre 1 580 000 et 1. Donc tout le monde se décale d'un rang, ce qui est d'ailleurs beaucoup mieux, parce que chacun a une chambre plus grande. Et la chambre 1 devient libre et 0 se met là. Et après, on change les étiquettes sur les murs, et puis maintenant, tout le monde est logé. Ça, c'est la définition même de l'infini, c'est la trouvaille de Cantor, maintenant que les mathématiciens savent très précis ce qu'est l'infini, c'est ça. L'hôtel est infini quand on peut faire ça. Dans les hôtels que nous avons ici-bas, il peut y avoir un grand nombre de chambres, mais elles sont finies. Et on ne pourra jamais faire ça parce qu'il y a une dernière chambre, et l'occupant de la dernière chambre, il va dans la fenêtre.
L'hôtel infini, l'infini en mathématiques, bon là on comprend bien ce que c'est que l'infini, enfin d'un seul coup on le visualise.
Alors, ça c'est une petite histoire qui avait été imaginée par le mathématicien David Hilbert pour illustrer un peu les résultats de Cantor. Ces résultats qui, effectivement, nous paraissent paradoxaux, mais ce qu'a montré Cantor, c'est qu'on arrive premier résultat, c'est qu'on arrive à définir de manière bien correcte ce qu'est l'infini. Deuxième résultat, il existe plusieurs sortes d'infinis qui ne sont pas équivalents et il propose une méthode pour savoir à quel infini on a affaire. Et troisième résultat, c'est que ces infinis obéissent à une sorte d'algèbre, on peut faire des calculs avec eux. Et la petite fable d'Hilbert illustre certaines propriétés de cette algèbre, c'est à savoir que quand on ajoute le nombre 1 à l'infini, on obtient toujours l'infini. Vous voyez, c'est une règle d'addition un petit peu spéciale, parce qu'en général, quand on ajoute 1 à un nombre, ben on obtient un autre nombre, sauf que ce nombre est l'infini, parce qu'on ajoute 1 à l'infini, on obtient toujours l'infini. Bon, bien sûr, il y a des tas d'autres propriétés, mais celle-ci est un peu remarquable.
Est-ce que ça veut dire aussi que les mathématiciens, on parlait de maîtriser ou de se débarrasser de l'infini, les mathématiciens, c'est omniprésent, l'infini chez les mathématiciens.
Oui, il est omniprésent. Et même si vous prenez un nombre tout à fait normal, ce qu'on appelle les nombres réels, bon, par exemple, vous dessinez un carré dont tous les côtés valent 1 centimètre, par exemple, et vous vous demandez quelle est la longueur de la diagonale. Bon, on connaît très bien la réponse, ça s'appelle racine de 2. Eh bien, ce nombre racine de 2, c'est un nombre qui n'est pas un nombre entier, c'est un nombre qui n'est pas un nombre rationnel, c'est ce qu'on appelle un nombre réel irrationnel. Eh bien, les mathématiciens ont compris que ces nombres irrationnels, on ne pouvait pas vraiment les définir et les concevoir sans faire appel à une notion d'infini. On peut le dire d'une manière un peu imagée, c'est que si l'on s'intéresse aux mathématiques comme un langage où les nombres, on les écrit avec des mots, eh bien pour écrire un nombre aussi simple et aussi présent que racine de 2, eh bien il faut un nombre infini de lettres. Autrement dit, si vous voulez écrire racine de 2 en notation décimale, il faut un nombre infini de décimales. Et quand on le définit, quand on définit ces nombres réels du point de vue axiomatique en mathématiques, eh bien on le définit par un processus de limite qui fait intervenir un processus justement de nature infinie. Donc l'infini, il est partout, même dans les mathématiques les plus simples. Et on est arrivé à s'en accommoder, et ça c'est le grand progrès des mathématiques et les mathématiques du XXe siècle. Je crois que ce qui surprendrait sans doute le plus les mathématiciens de l'Antiquité, qui étaient tout à fait compétents et qui connaissaient beaucoup de mathématiques, c'est justement qu'on arrive à maîtriser l'infini et à calculer dans certains cas avec l'infini comme si c'était un nombre et à obtenir des résultats tout à fait pertinents.
Au fond, on pourrait dire aujourd'hui que quoi, que l'infini il tourmente, alors il tourmente les philosophes, il tourmente les humains, êtres finis que nous sommes, Jean-Pierre Luminet, et il tourmente les physiciens et les astrophysiciens.
Oui, enfin, personnellement, il ne me tourmente pas
du tout.
Voilà, c'est plutôt tendance au contraire à me réjouir de ce foisonnement d'infini qui investissent un petit peu toutes les disciplines de l'esprit humain, et en particulier voilà, celles sur lesquelles Marc et moi nous travaillons. Cette jolie anecdote là, de l'histoire de l'hôtel infini de Hilbert, d'ailleurs, elle a été racontée de façon partielle, parce que non seulement il y a le zéro qui veut trouver une chambre, mais il pourrait y avoir une infinité d'autres nombres qui trouveraient également le nombre de places qu'ils veulent.
Ça marche pour tous, l'hôtel infini, voilà. Il est vraiment infini.
Oui, ça veut dire, en fait, avant Cantor, il y a un bonhomme qui s'appelait Bolzano, c'est le premier mathématicien, c'était au XVIIIe siècle, qui a réussi à donner une définition de l'infini qui, en fait, une définition qui apparemment apparaissait comme paradoxale, ça s'appelle la réflexivité. C'est-à-dire qu'il va définir l'infini comme un ensemble qui est finalement, ou dans lequel le tout est aussi grand que la partie. Alors ça veut dire quoi? Ben effectivement, si vous prenez l'ensemble des nombres naturels, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc., après vous ne prenez que les nombres pairs. 2, 4, 6, 8, etc. Vous pourriez penser, ben, il y en a deux fois moins. Eh ben non, il y en a exactement pareil. Il y a le même nombre. C'est un nombre infini, mais il y a le même nombre. Et ça, c'est la définition, c'est le côté génial de Bolzano, de dire, c'est ça, en fait, la définition d'un ensemble infini dans lequel, en fait, la partie peut être aussi grande que le tout. Et au lieu de prendre les nombres pairs, vous pourriez prendre un nombre sur un milliard seulement. Eh bien, c'est pareil. Il y aura exactement le même nombre, le nombre infini. Et encore cela ne concerne que finalement l'infini le plus simple en mathématiques, qui s'appelle l'infini du dénombrable, que Cantor avait appelé Aleph 0. Et comme l'a dit Marc, l'exploit extraordinaire de Cantor, c'est de montrer qu'il y avait d'autres infinis encore beaucoup plus riches que l'infini du dénombrable, par exemple l'infini de nombres réels, le nombre pi par exemple. Le nombre pi,
magnifique exemple de l'infini. Il y a une infinité d'infinis en mathématiques.
Oui, il y a une infinité d'infinis. Et ce que dit Jean-Pierre, là, qui est à propos du fait que l'on puisse rajouter un nombre infini d'occupants, ça illustre une autre propriété de cette petite algèbre que j'ai mentionnée, enfin cette petite algèbre qui est quand même l'algèbre des infinis. Donc, qui est assez grande, c'est que l'infini plus l'infini donne aussi l'infini. Et autre chose, l'infini multiplié par l'infini donne le même infini. Et c'est ça qui a entraîné Cantor à sa réflexion, parce qu'il s'est aperçu un plan, finalement, mathématiquement, c'est une droite multipliée par une droite. Et ce qu'a montré Cantor, c'est qu'une droite et un plan ont le même nombre de points, alors que la droite, elle est située dans le plan, on a l'impression qu'elle n'occupe pas beaucoup de place. Et c'est ce résultat qui a paru absolument stupéfiant à Cantor, et pourtant, il l'avait démontré. Donc, il était obligé d'y croire, mais il n'arrivait pas à le voir.
Stupéfiant, l'infini, jusqu'où le penser et le repenser. Je propose d'écouter Camille Bazbaz sur RFI, Solitude infinie.
Puisqu'on a fait ce que l'on a pu, puisqu'on a plus que l'on avait, ce qu'on a vécu, on l'a perdu dans notre infinie solitude. Ce qu'on était, on ne sait même plus. Tout ce qu'on voulait, chérie, t'en souviens-tu? Ce qu'on croyait, on n'y croit plus. Dans notre infinie solitude, mais on sait tous qu'on n'y peut rien. Et vivre toujours ou mourir demain, moi ça me fait rien. Si j'avais su, je serais resté dans mon infini solitude.
Infini solitude de Camille Bazbaz sur RFI, devant cette infinité d'infini que nous tentons de repenser avec nos invités, les astrophysiciens Marc Lachaiseret et Jean-Pierre Luminet, avec tout de suite une nouvelle question sur la forme finie ou infinie de l'univers, posée par René Cuillerier, qui était hier notre invité, il est journaliste et auteur scientifique.
Où en est-on des univers chiffonnés et de la possibilité d'avoir une topologie de l'univers un peu compliqué, comme ça, qui serait un univers qui serait en forme de bouée, ou je sais qu'il y avait des tests qui devaient être faits sur le fond de rayonnement cosmologique, et donc j'aurais bien aimé savoir où est-ce que ça en était, tout ça.
Jean-Pierre Luminet, où en est-on de ces formes de l'univers fini ou infini, chiffonné?
Oui, parce que donc, comme je disais tout à l'heure, toute observation astronomique se fait nécessairement à l'intérieur de ce qu'on appelle l'univers observable, qui est limité par un horizon. Donc la vraie question qui se pose, c'est l'univers réel, l'espace physique lui-même, est-il fini ou infini? Et donc pour cela, il y a tout un ensemble de modèles mathématiques possibles que l'on peut développer, et y compris dont les modèles, ce que j'ai appelé à un moment les modèles d'univers chiffonné, c'était des modèles assez séduisants pour l'esprit, dans lesquels on avait un espace fini, sans avoir de limite. Alors déjà, ça pose quelques
un espace fini qui n'a pas de limite.
Oui, c'est-à-dire un espace dans lequel, parfaitement, de volume fini par exemple, mais il n'y a pas d'extérieur, il n'y a pas de bord, parce que c'est vrai, il y a des paradoxes si vous mettez un bord à l'espace. Il y a un espace, il y a donc des espaces, des exemples géométriques extrêmement simples, l'hypersphère, l'hypertor, etc. Vous partez en fusée, en ligne droite, sans jamais faire demi-tour. Un jour, vous rentrez à la maison, parce que vous avez fait un gigantesque tour de l'univers, sans rencontrer aucune limite, et vous étiez bien et bien dans un univers fini. Alors, à la suite de, à la fois de travaux mathématiques que nous avons conduits dans les années 90, notamment avec Marc et d'autres collaborateurs, et puis la comparaison avec des données cosmologiques, sur, notamment sur le rayonnement fossile, ce genre de choses, on a proposé en 2003, il y a un peu plus d'une dizaine d'années, toute une série de modèles possibles, donc des modèles d'univers chiffonné, qui pourraient rendre compte effectivement de certaines anomalies observées dans la structure à très très grande échelle de l'univers.
C'est-à-dire alors, de l'univers ça... qui serait à la fois, enfin, qui ne serait pas infini, qui serait fini, mais que l'on percevrait comme infini.
Oui, alors ce serait un univers fini, mais qui donnerait l'illusion, alors, peut-être pas, non pas de l'infini, mais l'illusion du plus grand, c'est-à-dire un petit peu comme une sorte de miroir aux alouettes qui démultiplierait un petit peu les apparences. Et dans un univers que j'appelle donc l'univers chiffonné, on pourrait avoir un espace réel, par exemple, un peu plus petit que l'espace observable, ce qui a priori peut paraître effectivement surprenant et contraire à la façon ordinaire de penser les choses, où on pense qu'on observe toujours un sous-ensemble de quelque chose de beaucoup plus grand. Là, ce serait au contraire l'inverse, ce serait une redondance. Donc un espace réel, physique, légèrement plus petit que l'espace observé, mais simplement sa forme, qu'on appelle sa topologie, serait suffisamment complexe, pour utiliser le terme simple, un peu simpliste de chiffonner, pour produire une illusion d'optique, nous faire croire qu'il y a en fait un petit peu plus de galaxies que ce que l'on pense en réalité. Alors, maintenant, quel est le statut expérimental? Parce que c'est beau de proposer de jolis modèles. Après, il faut évidemment les confronter à des observations. Alors, les toutes dernières données, les plus récentes obtenues par les télescopes lancés dans l'espace, comme WMAP, télescope américain, ou le télescope Planck, plus récemment le télescope européen, ont cherché, en fait, des signatures de nos modèles. Parce qu'évidemment, quand on développe un nouveau modèle, on prédit des signatures expérimentales. Alors, en toute honnêteté, il faut avouer que ces signatures, en tout cas les signatures qui ont été calculées et prévues pour les modèles les moins compliqués que nous avions proposés, notamment en 2003 dans la revue Nature, notamment ce qu'on appelait l'espace sphérique dodécaédrique de Poincaré, excusez le terme, qui est un espace fini, sans bord, avec des propriétés fascinantes, semble pour l'instant éliminé comme modèle réaliste, parce que tout simplement, on ne voit pas les signatures. Mais la porte reste ouverte à un certain nombre d'autres formes d'espace beaucoup plus compliquées, qui, elles, ne seraient pour l'instant pas encore testées stable ou réfutable par des observations astronomiques. Donc je pense que la question reste ouverte sur ce plan-là.
Et la question reste ouverte sur les infinis en général, parce que c'est ce dont on se rend compte en lisant votre livre ou à travers cette émission, c'est que finalement, quand on arrive à maîtriser un infini, j'ai envie de dire, il y en a un autre qui arrive par la fenêtre. Quoi. Enfin, c'est quand même un peu ça l'impression.
Ah ben, il y en a tout. Hein. Prenez Cantor par exemple, il arrive à définir et classifier les infinis, mais il y a un nombre infini d'infinis. Donc, chaque fois, on a des infinis, on ne s'en sort pas, mais on ne cherche pas à s'en sortir.
Oui.
En ce qui concerne, par exemple, l'infini de l'espace, alors il faut quand même comprendre une chose aussi, c'est que si jamais l'espace est infini, ce qui est tout à fait possible aujourd'hui sans entraîner de paradoxe, on ne pourra jamais le prouver. Parce que, quels que soient les tests qu'on applique, ceux qu'on a mis au point avec Jean-Pierre ou d'autres, on pourra peut-être montrer que l'univers est plus grand que 10 milliards d'années-lumière, 30 milliards d'années-lumière. Avec les progrès, on ira de plus en plus loin. Mais on peut toujours montrer que l'univers est plus grand qu'une certaine taille, mais qu'il est infini, jamais.
Donc, l'infini est indémontrable, en quelque sorte.
L'infini est indémontrable, exactement, d'une certaine manière, parce qu'il faudrait un ensemble infini d'observations pour montrer que l'univers est infini.
Et nous ça, sommes des êtres portée. Finis,
nous
donc peut-être qu'on est aussi limité.
D'ailleurs, j'aurais voulu poser une question au chanteur tout à l'heure, quand il parle de notre infinie solitude. Oui. Est-ce que c'est un petit infini ou un grand infini? Donc, à méditer.
Ah, est-ce que c'est un petit infini ou un grand
oui,
infini?
Oui, c'est une question intéressante, l'infini de notre solitude. Bon, peut-être les auditeurs auront des réponses.
Jean-Pierre Luminet, c'est indémontrable l'infini et finalement, est-ce que les êtres finis que nous sommes pourront arriver, peut-être pas à le maîtriser, mais en tout cas, quoi, vous dites à l'accepter, pas à éliminer finalement.
C'est effectivement indémontrable en physique, mais comme on l'a dit, il est démontrable en mathématiques. Non, mais j'aimerais peut-être pour conclure, parce qu'on arrive à la fin, là, revenir sur petite, finalement la petite remarque de Marc sur la solitude.
Oui, infini, grand infini.
Ça n'a rien à voir avec la science. C'est très important ce genre de remarque. Ce n'est pas du tout gratuit parce qu'en fait, le thème de ce livre et de l'émission d'aujourd'hui, on s'est focalisé sur des termes qui paraissent un petit peu compliqués. Mais il faut bien voir que tout ça fait partie en fait d'une véritable culture scientifique au sens le plus large du terme, c'est-à-dire que toutes ces réflexions que l'on fait, qui semblent très compliquées, elle est censée en fait dans une culture extrêmement large qui doit se débarrasser de tous les clivages et les séparations que l'on fait habituellement entre les scientifiques, les philosophes, les littéraires, les artistes, etc. C'est-à-dire que l'approche scientifique du monde, même quand on réfléchit à des problèmes aussi complexes techniquement que l'infini, a toujours eu des résonances avec des grandes questions en dehors de la science, des questions philosophiques, des questions métaphysiques, physique, des questions littéraires, c'est l'une aussi l'une des raisons pour lesquelles
vous citez Borges.
Exactement, c'est ce que j'allais dire. On a cité des écrivains, des poètes qui ont été fascinés par cette notion de l'infini
et qui en parlent finalement, enfin qui ont réussi à écrire et à en parler
bien
de
sûr,
manière
les,
plus.
Les poètes ont toujours tendance à parler de l'infini, que ce soit notre infini solitude ou d'autres infinis. Et ce qu'on montre aussi dans notre livre, c'est que l'idée d'infini, elle n'est pas surgie comme ça chez les mathématiciens, mais elle a été inspirée par la théologie, par par les arts avec la perspective, etc. Et qu'à un moment donné, par exemple, l'infini, la notion d'infini était liée à Dieu. Dieu a des pouvoirs infinis. Dieu est le seul qui peut finalement voir l'infini alors que nous sommes finis. Et cet aspect de l'infini, de Dieu, de la théologie, a aidé beaucoup à l'acceptation de l'idée d'infini dans les sciences, selon ce qu'on appelle le principe de plénitude.
Grande question qui restera toujours ouverte, donc, sur l'infini. Merci infiniment d'avoir été en direct pour partager toutes ces interrogations et ces pistes de recherche infinies. Je rappelle, Jean-Pierre Luminet et Marc Lachaiseret, que votre ouvrage « De l'infini » va être publié dans une nouvelle édition entièrement révisée chez Duno, « De l'infini » donc, sous-titré « Horizon cosmique, multivers et vide quantique », à lire absolument et apparaître demain, je crois, autre livre signé par vous, Jean-Pierre Luminet, avec Hubert Reeves, « Dialogue sous le ciel étoilé » chez Robert Laffont. Merci à tous les deux.
Merci à vous.
Merci.
Autour de la question sur internet, www.rfi.fr.
Demain, nous remonterons le temps sur les traces de Néandertal autour de la question pourquoi Néandertal n'a pas complètement disparu et comment les récentes découvertes paléogénétiques nous en rapprochent. À suivre demain avec Pierre Chaffanjon à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses. D'ici là, surtout, restez curieux. À l'écoute de RFI, un nouveau journal dans 30 secondes.